Le journal était signé Mathieu Laurent, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. On en a parlé tout l'été sur France Culture.
Vous avez honte d'aimer les faits divers ? Je suis là pour vous aider.
La rubrique faits divers de Mara Goyer qui vous a accompagné tous les jours dans les matins d'été, eh bien on en parle à nouveau et on n'a pas honte. Quelle place et quel traitement des faits divers dans la presse, du barrage de Sivens au clown méchant, l'affaire Grégory Villemain. Le fait divers fascine, il fait parler, il intéresse les journalistes, il peut détruire aussi des familles, des victimes. Le fait divers est sans doute une promesse de rebondissement, de développement, un peu comme un feuilleton télé qui peut nous tenir en haleine pendant parfois très longtemps. Un fait divers peut aussi devenir un événement, une affaire et déclencher un emballement médiatique, politique. On l'a vu avec l'affaire du barrage de Sivens et la mort d'un jeune homme, Rémi Fraisse, 21 ans. Pour en parler avec nous ce matin dans Le Secret des Sources sur France Culture, en studio, Sarah Lou Cohen, chef du service police justice de BFM TV, et Patricia Toronchaud de Libération. Bonjour à vous deux, mesdames.
Bonjour.
Nicolas Jacquard du journal Le Parisien. Bonjour.
Bonjour.
Nous rejoindrons également dans un court moment Corinne Cutillat, grand reporter au bureau de Radio France à Toulouse et qui a passé la semaine entre Gaillac et Sivens. Et en duplex de France Bleu Orléans, nous retrouverons Laurent Sacour, ancienne journaliste et auteur d'un livre référence sur l'affaire du petit Grégory, Le bûcher des innocents. Et puis nous interrogerons une victime d'un fait divers, Roland Agré, accusé à tort de meurtre. Roland Agré, aujourd'hui président de l'association Action Justice contre l'erreur judiciaire. Je n'oublie pas nos deux experts et expertes, Mariette Darigrand, sémiologue, bonjour.
Bonjour.
Et Thibaut Henton, l'homme des images et des réseaux sociaux. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy et aux manettes, Élise Le. En fin d'émission, le clin d'œil de Nathalie Lopez. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Bonsoir à tous, il est 20h, bienvenue. L'actualité de ce dimanche marquée par la mort suspecte d'un jeune homme de 21 ans hier soir sur le site du futur barrage contesté de Sivens dans le Tarn. Des affrontements avaient opposé manifestants et forces de l'ordre.
À la une de l'actualité ce soir, les gendarmes en accusation dans la mort du jeune manifestant Rémi Fraisse. Son décès serait dû à l'explosion d'une grenade offensive, affirme le procureur. Alors que l'affaire, nous le verrons, déchire la classe politique, peut-on parler de bavure ?
Voilà, vous venez d'entendre deux extraits des journaux de 20h de France 2, le premier après la mort de Rémi Fraisse, le second extrait après la mise en cause des gendarmes. Et dès lors, il ne s'agit plus seulement d'un fait divers, c'est devenu un événement.
Mes mots sont ceux d'abord adressés à la famille, la compassion, la solidarité. Mes mots aussi sont ceux que l'on doit à une région, à des manifestants, mais aussi aux forces de l'ordre qui se sont déployées. Des gendarmes ont été blessés. Qu'est-ce qui s'est produit ? La vérité doit être connue.
Je pense qu'on est face à une situation qui est pour moi absolument intolérable et qui va finir par être une tâche indélébile, je le dis, indélébile sur l'action de ce gouvernement.
Aujourd'hui, il est évident que le ministre de l'Intérieur a la responsabilité de cette situation.
Face à un tel drame, chacun doit faire preuve de responsabilité, mais aussi de dignité. C'est la seule attitude possible. Quand on est un responsable politique, quand on est un élu, on ne peut pas faire de déclaration à l'emporte-pièce. Je n'accepte pas et je n'accepterai pas les mises en cause, les accusations qui ont été portées en dehors de cet hémicycle à l'égard du ministre de l'Intérieur qui a toute ma solidarité.
Voilà, nous venons d'entendre dans l'ordre François Hollande, Cécile Duflot, José Bové et Manuel Valls. Corinne Cutilla, bonjour Corinne du bureau de Radio France à Toulouse, est en ligne avec nous.
Bonjour.
Alors Corinne, vous avez passé la semaine à Sivens et on a bien sûr entendu vos reportages sur France Culture. Corinne, vous arrivez donc samedi dernier à Sivens. Quelle est l'ambiance l'après-midi sur le site du barrage ?
Je suis même arrivée avec 2 heures d'avance, je suis arrivée vers 10 heures du matin, alors que sur le programme, il était dit qu'on pouvait arriver vers midi. En fait, les festivités devaient commencer vers midi. Il faisait beau, il faisait même très beau, et puis le Tarn, c'est une très très jolie région, donc j'y suis allée très sereinement, très tranquillement, et quand je suis arrivée, les zadistes, comme on les appelle, hein, puisqu'ils sont sur la zone à défendre, sur la ZAD du testé, commençaient à se réveiller, sortaient des tentes, des abris de fortune, des cabanes, il y avait des enfants, il y avait des vélos, des familles, des brebis. Voilà, c'était une espèce de pique-nique géant. On attendait 5000 personnes, ce qui fait toujours un peu peur quand même. Le matin, il y en avait vers 10h du matin, je ne les ai pas comptés, mais à la louche, 500. Quoi. Et vers midi, oui, il y en avait bien 1000.
Mais dans une ambiance plutôt familiale, c'est
plutôt
ça ?
Plutôt familiale. Et puis, ça s'annonçait comme ça, enfin, sur le programme, puisqu'on avait reçu un programme. Donc, il y avait des chapiteaux, il était prévu du théâtre pour les petits et pour les grands, des clowns, gentils. Une boulangerie ambulante, on pouvait cuire le pain sur place, du yoga même en plein air, un atelier de construction de cabanes, de jardinage.
Enfin... Donc Corinne, plutôt festif, et au fur et à mesure de l'après-midi, ça se dégrade, c'est cela ?
Ça se dégrade, on va dire, en début d'après-midi, parce qu'en fait, moi quand je suis arrivée, j'ai fait bien sûr des interviews avec les gens qui étaient là, où, quand, comment, pourquoi, et je savais que Jean-Luc Mélenchon et José Bové devaient venir, donc je les attendais. Et comme l'espace est très très grand, je ne savais pas par où ils étaient arrivés. Et finalement, c'était pas compliqué. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis retournée parce que j'ai entendu des cris, des insultes, enfin un espèce de mouvement de foule. Et c'était Jean-Luc Mélenchon qui arrivait et qui se faisait cracher dessus, insulter. On lui balançait des yaourts. Enfin voilà. Et là, je me suis dit, c'est curieux. Enfin, ces hommes politiques viennent pour les soutenir. Je ne comprends pas cette agression. Donc je me suis renseignée. Certains m'ont dit « Ah, mais oui, mais c'est Mélenchon, c'est un faux révolutionnaire, il est déjà venu, il ne nous a pas aidés. Bon. » Et puis, José Bové est arrivé quelques temps après, et puis là aussi, il s'est fait insulter. Et puis, je me suis approchée encore, et là, ce sont les journalistes qui ont pris, puisque on a voulu m'arracher mon agra, donc mon appareil d'enregistrement, ce qu'un des garçons a réussi à faire d'ailleurs, puisque je me suis retrouvée, enfin, il a tellement tiré sur le fil que le fil a cédé. Ensuite, j'avais terminé mes interviews par chance, je suis retournée à la voiture et là, on était en train de me taguer la voiture avec de la peinture orange. Je me suis retournée vers un copain, un confrère donc, de RTL qui m'a dit « bah moi, ils m'ont vidé un seau de peinture sur la lunette arrière, enfin France 3 aussi ». Des caméras cassées, etc.
Impossible de faire votre travail auprès de ces manifestants, de les interviewer là. Hein.
Difficilement, très difficilement. Par chance, j'allais dire, de la matière. Mais en même temps, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Je reste, je pars. J'ai eu un peu peur, oui, j'ai eu un peu peur.
Avec les gendarmes, vous obtenez des informations, il y a une communication, comment ça se passe ?
Il n'y a pas de gendarmes là, il n'y a pas de gendarmes. C'est quand je quitte les lieux... par des petits chemins, tout doucement, me faisant taper sur la carrosserie, coup de pied, bon, coup de poing, etc. Je tourne en fait autour de la forêt de Sivens et je dis « Ah tiens, là, il y a un quart de CRS. Ah tiens, là, il y a quelques gendarmes. » Mais vraiment pas nombreux. J'ai pas de gendarmes autour de moi à ce moment-là.
Vous sentez que ça va empirer ? Quel est votre sentiment à ce moment-là ?
Oui, on sent que ça va dégénérer. Oui, bien sûr, on sent que ça va dégénérer. Et puis, on ne s'est pas trompé, hein, puisque très, très vite, le service d'ordre des zadistes était tellement léger, puisque c'était les clowns qui étaient censés l'assurer. Par exemple, quand ce garçon a voulu m'arracher, enfin, m'a cassé mon matériel, le clown essayait de le chatouiller pour lui faire lâcher le fil.
Bon, je veux dire,
c'était gentil, mais ce n'était pas suffisant. Et puis moi, j'étais un peu tendue aussi à ce moment-là.
Merci beaucoup, Corinne Cutilla, pour ce témoignage. On l'a appris en tout début de soirée à Grande-Synthe, près de Dunkerque. Une fusillade a fait 3 morts.
2 personnes ont perdu la vie ce matin lors d'une double collision.
C'est le pire accident de train. Le plus meurtrier qu'ait connu l'Espagne.
La petite commune de Saint-Hippolyte, plongée dans l'émotion.
Un amas de tôles froissées, c'est tout ce qui reste de cette voiture au moment du choc.
Hier, peu avant midi, un homme a tué sa compagne d'un coup de fusil de chasse.
Les 3 autres sont grièvement blessés, tout comme le conducteur de l'autre véhicule.
Le secret des sources.
Mariette Darigrand, sémiologue pour cadrer le débat, le fait divers regroupe quoi exactement? C'est un champ très large, le fait divers.
Oui, il faut entendre le mot divers dans son vrai sens. Hein. C'est vraiment peut-être le genre journalistique le plus hétérogène. Donc ça va de l'anecdotique sans grande portée, si on veut, au tragique. Et là, on a vraiment un exemple en ce moment avec ce qui s'est passé à Sivens. Alors, si vous voulez, pour essayer d'y voir un peu plus clair, quand on regarde l'histoire, il me semble que finalement, on a deux tensions dans les faits divers, deux veines en quelque sorte. Hein. Une veine très narrative, j'appellerais la veine merveilleuse, parce qu'elle vient du XVIe siècle. C'est très ancien, en fait, le fait divers. C'est le placard dans la rue, et ça dure jusqu'à la fin du XVIIIe. Donc, la Révolution aussi se fait avec ces informations qui sont placardisées ou qui sont criées, hein, les enfants criaient les nouvelles. Donc c'est important cette dimension-là parce que c'est du collectif de rue, si vous voulez, avec des agrégats. À un moment donné, on s'énerve sur quelque chose, on rit ensemble, on pleure ensemble, on prend position. Donc ça, c'est la veine narrative, romanesque, fictionnelle du fait divers. Et puis il y a une deuxième veine qui est beaucoup plus sérieuse, qui est plus récente, hein, qui vient avec, disons, Zola, etc., le roman social, où le fait divers a une portée, la partie vaut pour le tout. Elle a une portée emblématique. Donc c'est intéressant avec nos invités aujourd'hui parce que finalement le Parisien a une tradition du fait divers qui est narrative, hein, qui est ce romanesque, cette façon de partager très populaire. Et Libération a la deuxième tradition, en tout cas à sa fondation avec Sartre, hein, qui tenait beaucoup à cette dimension-là parce que lui-même était écrivain et Flaubertien, hein, parce que c'est Madame Bovary d'un fait divers après tout. Et à ce moment-là, Libé, dans ses grandes années, a mis le doigt sur des faits de société à travers le fait divers. Voilà. Alors aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus brouillées entre ces deux postures et même entre ces deux journaux. Hein. Hier, les deux faisaient une sur les clowns, par exemple, très proches, finalement.
On va en parler, Mariette.
Voilà. Mais donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est quand même, au milieu de cette diversité, ces deux grandes sources, ces deux grandes manières de faire parler le fait divers, pour la pure narration et pour peut-être la réflexion sur notre société.
Fait divers narratif aux Parisiens, fait de société à Libération. Vous êtes d'accord? Je vous ai vu réagir sur Sivens également, Patricia Touranchot.
C'est-à-dire que sur Sivens, les sources que nous avions sur place disent que c'est vers 17h que ça se tend vraiment sur place et qu'un groupe d'une quarantaine de gars vêtus en noir, casqués, gantés, enfin équipés en black blocks, entre guillemets, enfin... pour aller se battre, commence à aller chercher les gendarmes et qu'à ce moment-là, les organisateurs qui, eux, ne veulent absolument pas de provocation ni de baston, font une chaîne humaine dont certains, d'ailleurs, militants sont habillés en arbre, sont déguisés en arbre, et font une chaîne humaine entre ces gars en noir et les gendarmes. Et ça dure, il y a 30 à 40 minutes de tension et puis ça retombe. Et jusqu'au moment, vers minuit, où... une centaine ou 200 opposants selon les gendarmes, dont certains purs et durs équipés pour la lutte armée, hein, il faut le dire, s'en vont justement prendre à partie, chercher les gendarmes sur le site. Mais au milieu d'eux, voilà, il y a des gentils écolos et comme ce garçon étudiant en botanique, Rémi Fraisse, qui se trouve au milieu, qui lui n'a aucune expérience de tout ça et aucun équipement pour se battre et qui malheureusement se prend visiblement une grenade offensive des gendarmes dans la nuit.
Dans le dos, ou en haut,
oui,
du dos,
voilà.
De Rémi Fraisse. Oui. Sarah Le Cohen, Nicolas Jacquard, vous vous emparez de cette histoire dès le début, dès samedi dernier, de Sivens. Sarah Le Cohen, de BFM TV.
Non, pas dès samedi dernier. En fait, on va quand même mettre du temps en fait, à mesurer, on va mettre 24 heures, vraiment, pour être très honnête, pour mesurer l'impact, parce que effectivement, au départ, il y a beaucoup de confusion autour de la mort de Rémi Fraisse. Les sources qu'on a, d'ailleurs, même les manifestants eux-mêmes n'ont pas bien vu, et c'est dans le noir, nuit très noire, et les gendarmes, au départ, ne savent pas du tout et ne font pas du tout le lien entre les grenades lancées et ce corps qui tombe. Bon, il y a un moment où le silence, en fait, ce qui nous alerte, c'est que le silence du gouvernement nous pose question. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a quand même un mort parmi des manifestants, c'est du jamais vu depuis Malek Houssekine. Il y a, voilà, une interrogation. Pourquoi ça ne réagit pas? Et ça commence à nous alerter. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'on est peut-être face à ce qui pourrait être une bavure des gendarmes. Donc, c'est à ce moment-là qu'on commence, du coup, à envoyer deux équipes sur place, enfin à mettre l'artillerie l'autre, quoi.
Nicolas Jacquard pour Le Parisien.
On se pose plein de questions et comme le disait Sarah Lou, à partir du moment où les politiques ne réagissent pas, il y a cette espèce de moment de flottement qui va devenir quelque part de plus en plus intense et puis jusqu'à cette explosion politique presque, on pourrait dire.
Parce qu'en fait, au départ, il y a Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui fait un communiqué, mais qui a un communiqué où il prend la défense des forces de l'ordre et il minimise totalement l'incident.
Oui, il parle de 50 blessés par les gendarmes.
Exactement, exactement. Donc c'est vrai qu'on a mis du temps, nous aussi, alors qu'on est une chaîne de la réactivité, à se rendre compte. Ouais. Voilà, enfin du temps, 24 heures.
Alors, on va parler des unes du Parisien et de Libé d'hier matin.
Ce genre de vidéo de clown agressif connaît actuellement un grand succès sur Internet. Parti des États-Unis, le phénomène se propage en France depuis quelques semaines. Au début du mois, c'est dans le Nord que les premiers cas de clown agressif ont été signalés. Des collégiens auraient même été menacés.
Bah moi, j'ai vu un clown avec une perruque noire, un nez rouge et il est habillé normalement.
On a vu les clowns, ils avaient un camion blanc avec des têtes de mort.
À l'approche d'Halloween, le nombre d'agressions se serait multiplié en France. Le phénomène commence à inquiéter les forces de l'ordre.
Voilà, extrait d'un reportage sur France TV Info consacré aux clowns méchants ou aux clowns agressifs. Patricia Toranchot de Libération, Nicolas Jacquard du Parisien, Sarah Le Cohen, BFM TV. Cette affaire de clown vous intéresse hier, vendredi, la une du Parisien, la une de Libération consacrée aux clowns méchants. Patricia Toranchot, c'est vous qui avez proposé le sujet ?
Non, absolument pas, monsieur. Non, j'étais pas très.
C'est pas un tribunal. Hein.
J'étais pas très favorable à un événement de Libération sur l'affaire des clowns parce que il semblait que c'était un petit phénomène, voilà, que c'est pas pour moi à ce jour, c'est pas un véritable phénomène de société. Et puis dans les faits divers en général, on essaye d'avoir des vrais portraits de gens, des vrais récits sur des gens. Et là, je trouvais qu'il y avait pas la matière pour le faire. Mais bon, mon journal trouvait que c'était quand même, il fallait le noter avant Halloween, qu'on était dans l'actu. Mais bon, je pensais aussi que ce qui se passait à Jérusalem ou au Burkina Faso méritait plus 4 pages que les clowns. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. J'ai fait quand même l'article en reprenant tous les petits faits divers depuis le 10 octobre à Périgueux où des jeunes gens s'amusent à se déguiser en clown et puis à faire peur aux enfants ou aux gens. Il y a juste un cas qui me semblait grave quand même, c'est à Montpellier, un garçon de 18 ans, alors complètement bourré, qui a agressé un agent artistique dans la rue la nuit. Il l'a frappé de 30 coups de barre de fer. Donc lui, pour le coup, il est passé au tribunal, il a été condamné à 12 mois de prison, dont 4 fermes. Voilà, ça c'est grave, ça a dérapé gravement à ce moment-là. Pour le reste, bon, voilà.
Oui, parce qu'on apprend quand même des choses en lisant Libération et Le Parisien, effectivement, qu'il y a des condamnations à la prison ferme, qu'il y a aussi, on a besoin de cartes d'identité, Nicolas Jacquard, pour acheter des déguisements, c'est écrit dans Le Parisien d'aujourd'hui. C'est vous aussi qui avez proposé le sujet, parce que vous en faites le fait 10 jours ?
Alors non, moi je l'ai pas proposé, effectivement, je partage un petit peu le point de vue de Patricia. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu ce phénomène monter, prendre de l'ampleur. Faut pas le nier, c'est aujourd'hui une réalité qui pose question aux autorités. Vous le rappeliez avec, par exemple, ces interdictions. Alors, on peut parler peut-être de mesurettes, mais en tout cas, voilà, les uns et les autres tentent comme ils peuvent d'éteindre cet incendie des clowns. Maintenant, voilà, ça pose effectivement un certain nombre de questions. Est-ce qu'aussi les médias servent de caisse de résonance médiatique à ce phénomène-là ? Alors, il y a cette espèce d'aller-retour entre ces jeunes qui jouent au clown et qui jouent à faire peur. Maintenant, il y a eu aussi parfois des conséquences assez dramatiques de ce phénomène-là.
Mais la police avant-hier...
Patricia Toranchot.
La police jeudi, en fait, moi, m'a clairement demandé de... moins vous en parlez, les médias, de ces clowns menaçants, mieux c'est pour nous, parce que le 24 octobre et le 27 octobre, autour de ces dates-là, on a voulu communiquer justement pour mettre un coup d'arrêt à ces clowns agressifs, pour leur expliquer que se promener sur la voie publique avec une arme, même factice, peut être un délit passible d'une peine d'emprisonnement. Maintenant, on a communiqué, le phénomène est en baisse, donc je vous en supplie, évitez d'en parler, on ne va pas remettre une pièce dans le jukebox.
Voilà, mais vous faites quand même 5 pages.
Eh oui.
Le clown, en quelque sorte, c'est une victime. C'est un personnage pas beau, qui n'a pas réussi dans la vie, qu'on méprise. Et le clown mauvais, ce serait un peu la victime qui se vengerait.
Le secret des sources.
Thibault Henneton, notre chroniqueur multimédia, le fait divers vous inspire et les clowns agressifs particulièrement.
Clown plaisantin, clown agresseur, milice constituée pour les traquer, une certaine envie d'en découdre en soignant la mise en scène. Porté par de nombreux groupes sur Facebook, le phénomène parti des États-Unis est devenu viral, gagnant la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, où les signalements se sont multipliés, engendrés les uns les autres, tel un mème. Phénomène viral propre au web, motif frappé par un sortilège de duplication. Un phénomène largement amplifié puisque la police nationale déclarait n'avoir reçu que 19 plaintes. Hier soir, sans doute, Halloween oblige, il atteignit son paroxysme. La police qui, dès le 24 octobre, réagissait sur son site, rubrique « L'actu police », le phénomène des clowns maléfiques, pour signaler la présence d'un clown agressif, composé le 17 ou le 112. La palme revenant à la division Pas-de-Calais, les clowns qui s'inspirent de massacres à la tronçonneuse ne sont pas bienvenus devant les écoles.
Alors, le point de départ, en tout cas en 2014, pour son arrivée jusqu'en France, est un projet d'artiste qui photographie un clown dans une petite ville de Californie.
C'est la nuit, le cadre est un peu flou. Le clown ressemble à un Ronald McDonald clochardisé. Il tient des ballons et on se demande bien ce qu'il fabrique, ce marginal. C'est pas rassurant. C'est ce projet qui a déclenché un début de panique outre-Atlantique avant d'essaimer internationalement sur les réseaux. Donc, porté par les vidéos canulars à succès d'une chaîne YouTube italienne, DM Pranks, qui filme en caméra cachée des passants surpris par des clowns. Porté aussi par une série télévisée américaine, American Horror Story. Porté surtout par l'imaginaire collectif, depuis longtemps marqué par la coulrophobie, la phobie des clowns. Antoine Guillot le racontait sur cette antenne mardi dernier, dans sa revue de presse culturelle, en rapportant les propos du patron de Clowns of America International, premier syndicat de la corporation fatigué de voir Hollywood transformer pour le profit un métier si bon et pur. La BAC, brigade activiste des clowns présente au Testé, on le disait tout à l'heure, à Notre-Dame-des-Landes aussi, bref, un peu partout où ça lutte, aurait elle aussi des raisons de se plaindre. La coulrophobie a cependant de beaux jours devant elle. Le réalisateur de True Detective prépare en effet une adaptation de ça, le livre très coulrophobe de Stephen King. Autrement dit, le clown, victime expiatoire, à ne pas confondre avec la victime d'une bavure policière ou d'un meurtre d'État, n'a pas fini de se venger.
Thibault Henneton, qu'on le retrouvera en fin d'émission.
Something good. Oh, something good. Oh, something good. Oh, something good tonight. Make me forget about you for now.
Algie sur France Culture, le groupe britannique qui interprétait Something Good. Quelle place, quel traitement pour les faits divers dans la presse avec nos invités Patricia Touranchaud de Libération, Sarah Loukouen de BFM TV, Nicolas Jacquard du Parisien.
On peut dire, pour faire un jeu de mots, les faits divers, ce sont des faits qui font diversion. Le fait divers, c'est cette sorte de denrée élémentaire, rudimentaire de l'information, qui est très importante. Je le dirai au moins 20 fois au cours de mon exposé. La denrée la plus rare à la télévision, c'est le temps. Bon. Penser qu'on emploie des minutes si précieuses pour dire des choses si futiles, ça veut dire que ces choses si futiles, en fait, sont très importantes. dans la mesure où elle cache des choses précieuses, elle cache des choses importantes. Alors si j'insiste sur ce point, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, une proportion très importante, qui est de l'ordre de plus de 50% des gens, ne lisent aucun quotidien. Autrement dit, sont voués corps et âme à la télévision. Or, si elle fait ce que je dis, c'est-à-dire si par exemple, en mettant en tête des faits divers, or vous pouvez vérifier, prenez France Info, dans 5 minutes, on peut faire la vérification, on va commencer par un fait divers. Et de plus en plus, et puis quand ce n'est pas la page sportive, etc. Bon, en remplissant ce temps rare avec du rien, avec du vide, ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques.
Voilà Pierre Bourdieu en 1996, après l'apparition de son livre sur la télévision et le célèbre fait diversion. Alors le fait divers masque l'essentiel. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que Bourdieu a raison, Nicolas Jacquard ?
Je ne suis pas d'accord forcément, vous vous en doutez. Non, moi je ne crois pas qu'on comble ces vides avec du rien. Au contraire, je pense qu'on est un petit peu, nous, dans le tout. On expliquait tout à l'heure un petit peu ce qu'était le fait divers. Bah, tout ce que les autres services ne font pas, ne couvrent pas. C'est assez difficile de donner une définition du fait divers. Moi, j'ai tendance à dire qu'à partir du moment où il y a du judiciaire quelque part, on est dans le fait divers, en tout cas nous un petit peu comme ça, qu'on l'intègre aux Parisiens. Et puis beaucoup et surtout essentiellement de l'humain, alors parfois dans ce qu'il a de plus sombre. Mais voilà, on parlait du narratif aussi, on est beaucoup dans des histoires de vie, des portraits. On parlera peut-être tout à l'heure aussi des victimes, on est là aussi pour leur donner la parole, pour dénoncer parfois ce qui ne l'est pas. Donc voilà, le fait divers est tout sauf de rien.
Le narratif aux Parisiens, comme disait Maria Darigrand, le fait de société sur Libération. Mais est-ce que c'est un peu le parent pauvre du métier de journalisme, le fait divers? Parce qu'on y va en se bouchant le nez.
Ah non, moi je ne suis pas d'accord.
Alors allez-y.
Franchement, pour moi, le fait divers, c'est la matière la plus noble qui soit. Parce que, contrairement à ce que dit Bourdieu, c'est pas toujours pour faire diversion. Certes, dans des affaires de terrorisme, le pouvoir va essayer de nous utiliser, nous journalistes faitdiversiers, pour faire du schprounz autour de la menace, etc. On n'est pas obligé de rentrer là-dedans. Sur les histoires, la plupart des histoires de faits divers, que ce soit des faits de société ou des histoires de gens, c'est avant tout des histoires humaines. Et ça révèle la face cachée de la société. Et en ce sens, je trouve que Bourdieu, en grand sociologue, aurait dû justement voir ce côté-là. Et ce ne sont pas des futilités de raconter des histoires de gens, de raconter, je ne sais pas, les histoires du couple Fourniret, leur périple en France, les victimes, leur manière de vivre, la manière dont ils ont piqué un magot, dont ils ont monté un château, dont ils ont traqué des jeunes filles. Bah, moi, je trouve que c'est important de raconter ça pour la société française.
Sarah Lou Cohen.
Oui, bah, je suis d'accord avec mes deux confrères. Et puis en plus, c'est une matière qui est très difficile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journalistes, quand ils sortent d'école, ils n'ont pas très envie de... Et en fait, c'est là où on apprend beaucoup de choses, parce que c'est aussi la matière qui est la moins institutionnelle. C'est-à-dire que c'est là où il faut aller vraiment chercher, il faut aller taper aux portes, il faut essayer de convaincre. Voilà, donc c'est une matière qui, une fois qu'on est passé par là, c'est pas comme le journalisme politique, ou voilà, c'est très différent, où on ça nécessite de taper à des portes où on se prend souvent des portes fermées, des gens à convaincre. Et c'est une matière qui est difficile parce que c'est une matière humaine, voilà, aussi.
Ouais, une matière difficile, un vrai genre journalistique, Nicolas Jacquard, oui.
Je voulais juste rebondir sur ce que disait Sarah Lou. Oui. On parle souvent, on distingue aujourd'hui, on aurait quelque part le journalisme d'investigation qui serait la matière suprême, la matière noble, et puis le fait divers qui lui serait tout en bas.
On dit le chien écrasé.
Le chien écrasé, et bien évidemment non. Vous le disiez tout à l'heure sur les méthodes. Voilà, on est peut-être ceux des journalistes qui vont le plus sur le terrain, qui sont le plus confrontés à nos concitoyens. Et souvent, nos méthodes, voilà, sont celles-ci. On va essayer de vérifier, de gratter, d'aller discuter avec les gens. Et ça, c'est le propre aussi du journalisme d'investigation. On a des méthodes similaires, même si dans un cas, on est sur le politico-financier, dans l'autre, peut-être plus sur l'humain, sur le judiciaire. On a des méthodes strictement similaires.
Thibault Henton, ensuite Mariette.
Vous disiez à donner la parole aux victimes, c'est en effet sans doute important. Mais quand on voit qu'en 2013, une étude parlait d'une augmentation de 73% des sujets sur les faits divers dans les journaux télévisés, alors que dans le même temps, le nombre d'homicides en France avait baissé de 50%, on peut quand même se poser la question de savoir si ça n'entretient pas aussi une forme de climat de peur et qui conduit à des comportements réactifs.
Marie Derrigrand, alors est-ce que le fait divers, c'est presque pourquoi vous me marrez ?
Ben oui. Parce que ça, il a pas répondu.
Oui, mais il faut accélérer. Alors vous voulez répondre ?
Le fait divers va bien au-delà des homicides. Hein. On est très très loin de.
Le problème, c'est qu'on nous fait souvent des procès en moralité pour les faits divers. Enfin, voilà, c'est
la
évidemment la télé puis autre. C'est vrai que le fait divers, c'est souvent on n'aurait pas dû appeler la grand-mère, la réveiller pour lui dire que sa petite fille était morte. Enfin, ça pose, c'est vrai, souvent des questions morales. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, cette question est aussi quelque part un peu morale, mais on choisit pas, enfin on choisit des bonnes histoires, enfin à raconter, c'est d'abord ça, ce sont des bonnes histoires.
Moi je trouve qu'il y a trop de faits divers à la télé, et je trouve qu'effectivement dans les JT il y en a trop, et un peu par le petit bout de la lorgnette et ça agite quelque chose. Je pense qu'il faudrait un peu plus choisir et trier.
Marie Derrigrand, le fait divers c'est presque rien, comme on l'a entendu avec Pierre Bourdieu où il a beaucoup évolué.
Je pense que depuis 18 ans, hein, je crois que c'était en 96 que Bourdieu disait ça, les choses ont beaucoup évolué dans le sens de la diversion. Et ce n'est pas le fait divers là, qui est forcément en cause. Il me semble que ce qui est beaucoup monté, c'est ce qu'on appelle l'info people, c'est-à-dire le fait divers appliqué à la célébrité. Donc rien ne sera plus intéressant que l'affaire DSK à un moment donné. Enfin, il fallait voir comment la presse
normal,
a été...
Normal.
Exactement. Donc la diversion, je crois qu'elle est plus vraie que jamais. Bourdieu a plus raison que jamais avec cette fonction, de dénoncer cette fonction de la presse. En revanche, je vous suis quand vous dites, quand vous défendez la dimension emblématique du fait divers. Mais là, les journalistes ont un problème. C'est que comme ils sont immergés dans le monde contemporain, ils utilisent les codes du monde contemporain. Et ils ont bien raison. Donc vous regardez des séries, vous lisez des romans, vous allez au cinéma. Et les mots écrits ou entendus, peu importe, sont les mots du code majoritaire, donc de la doxa. Et lorsqu'on regarde les faits divers, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le code majoritaire, c'est le morbide, c'est le macabre. Donc en ce moment, hein, depuis 5-6 ans, les faits divers appuient sur la mort, appuient sur ce qui est délétère, appuient sur ce qui est compliqué dans notre société. Donc je suis d'accord, il faut faire émerger de l'emblème, mais alors montrer aussi des choses, non pas qui vont bien, mais des choses qui ont une valeur politique, comme le faisait effectivement Florence Aubenas quand elle allait suivre l'affaire Roman. Et puis on sait après comment ça a été amplifié de manière intéressante, ou quand Éric Favreau le faisait. Enfin, la grande époque du fait divers de Libération, je trouve, est un bon modèle.
On va faire un retour en arrière de 30 ans sur un fait divers qu'on a tous en mémoire.
Il y a un monstre en liberté à L'Épanche-sur-Vologne, un petit village des Vosges. Un monstre qui a tué un enfant de 4 ans en le jetant vivant, pieds et poings liés, dans la rivière. Le corps de Grégory Villemain a été repêché par les gendarmes mardi soir. L'autopsie a confirmé la mort par noyade. Quelques instants après la disparition de l'enfant, l'oncle de la victime a reçu ce terrible coup de fil anonyme. « Je me suis vengé, j'ai tué Grégory ». Vengé de quoi ? On ne le sait pas. Du moins, pas encore, car bien sûr, l'enquête est menée tambour battant.
Voilà, Patrice Bertin sur France Inter. C'était le 18 octobre 1984. Alors, nous sommes en duplex avec Laurence Lacour. Bonjour, Laurence Lacour.
Bonjour.
Laurence Lacour, installée dans les studios de France Bleu Orléans. Alors, l'affaire Grégory est bien sûr dans toutes les mémoires. C'est peut-être le fait divers le plus mystérieux et sans doute le plus important du XXe siècle en France. Le 16 octobre 1984, Laurence Lacour, vous étiez correspondante d'Europe 1 dans l'Est et vous apprenez que le corps d'un petit garçon a été retrouvé dans une rivière des Vosges et qu'il a été assassiné. Et donc vous y allez. Est-ce qu'en arrivant sur place, Laurence Lacour, vous prenez conscience qu'il s'agit d'un fait divers très particulier ?
On ne peut pas dire qu'on prenne conscience vraiment de ce qui va se passer, bien évidemment. Bien sûr, c'est un événement extrêmement frappant, tout simplement par la cruauté, bien évidemment, de ce crime, par son contexte romanesque, justement. Vous évoquiez tout à l'heure, par la revendication écrite et téléphonée d'un personnage mystérieux qui donc a revendiqué ce crime. Mais surtout, je crois, pour nous, journalistes, par la photo qui est prise lorsque le cadavre de l'enfant est découvert dans la rivière et repêché devant un photographe qui se trouvait là de manière, non pas par hasard, puisqu'il s'était joint à la battue. Donc, pour l'une des premières fois où vraiment on ose montrer et publier le cadavre d'un enfant dans le cadre d'un fait divers. Auparavant, lorsqu'un enfant était enlevé ou assassiné, la presse se contentait généralement d'un photomaton qui n'était pas très bon ou d'une photo de famille qui était agrandie, qui était un peu jaunie. Et là, je crois que c'est ce qui nous a d'emblée saisi, c'est que finalement, comme la photo a été prise certainement très peu de temps après que le corps ait été mis à l'eau, ça nous a donné tout de suite une position de témoin privilégié.
C'est ce qui a contribué peut-être à l'emballement médiatique, à la folie médiatique dès les premiers temps de cette histoire.
Fatalement, bien sûr, puisque nous étions témoins, comme je viens de le dire, et nous le sommes restés pendant de très longues années. Vous voyez, nous en parlons encore 30 ans plus tard. C'est énorme, 30 ans. Vous voyez, je pense que l'aspect du corbeau a aussi été l'un des éléments les plus frappants pour nous, parce que dès lors que ce crime était signé par un familier, forcément, ça voulait dire qu'il était là, que nous le connaissions au bout de quelques jours, que nous lui avions peut-être serré la main, que forcément nous lui avions adressé la parole, très certainement, que donc il allait être forcément arrêté. Donc dès lors qu'il était facilement identifiable, eh bien nous sommes restés. Et donc la passion s'est emparée au fur et à mesure des jours, des heures, en fonction aussi des déclarations intempestives des uns et des autres, parce que si le crime a été à ciel ouvert, malheureusement très tôt, en plein cœur d'un village aussi, il ne faut pas l'oublier, Les protagonistes se sont laissés très vite happer par le mouvement médiatique qu'ils ne pouvaient pas maîtriser, qu'ils ne connaissaient pas. Et donc les parents, les grands-parents, les oncles et tantes ont très vite fait des déclarations. Donc finalement, tout le monde s'est exposé ou a été exposé. Et donc chacun a alimenté la passion de l'autre, la peur de l'autre, l'émotion de l'autre. Et c'est comme ça que le phénomène s'est emballé. Et il s'est emballé jusqu'à générer, c'est assez exceptionnel, un second fait divers. Il ne faut pas oublier qu'évidemment, dans cette affaire, il y a un deuxième crime qui survient, qui est la vengeance du père qui va malheureusement tuer son cousin, voilà, Bernard Laroche, qu'il tenait pour l'assassin de son enfant. Et ça, c'est un moment gigantesque dans la vie à la fois des gens et des êtres humains qui l'ont vécu, et des journalistes qui se sont retrouvés finalement quand même grandement acteurs de cette histoire à partir de ce moment-là.
Quelle est la pression de votre rédaction pour sur ce fait divers? Qu'est-ce qu'on vous demande, Laurence Lacour?
Curieusement, dans un premier temps, il n'y a pas de pression, dans ce sens où on me dit même, écoute, laisse tomber, c'est sordide. Le premier jour, lorsque je téléphone pour évoquer cela, laisse tomber, c'est sordide. Il y avait en plus à l'époque une affaire de magistrat qui était mis en cause, magistrat de la cour d'appel de Colmar, donc c'était tout à fait inattendu et inédit qu'un magistrat soit mis en cause judiciairement parlant. On s'était d'abord intéressé à ça. Mais ensuite, évidemment, la pression est montée très vite, notamment parce que j'étais en concurrence frontale avec RTL, qui avait un correspondant extrêmement implanté dans cette région, dans le milieu judiciaire, dans le milieu policier, et qui très vite, d'autant qu'il multipliait les correspondances sous divers noms, a alimenté la presse nationale. Donc c'était un mouvement, un flot auquel on ne pouvait pas résister. Et donc tous les matins, il fallait évidemment, parfois plusieurs fois par jour, mais alimenter sur ce sujet. Mais de toute façon, la passion s'est très vite emparée de nous, et la pression, nous nous la sommes mises nous-mêmes, si je puis dire.
Vous dites que cette affaire a failli vous détruire?
Alors, je n'irai pas jusqu'à ce mot en ce qui me concerne. Cette affaire a détruit bien des gens. Beaucoup de gens, bien sûr, les principaux protagonistes ont énormément souffert de cette histoire. Dieu merci, pour la plupart, ils se sont reconstruits. Mais certains ne s'en sont pas relevés. Bien sûr, Bernard Laroche est mort. Mais beaucoup de gens qui sont impliqués, y compris les journalistes, magistrats, avocats, tous ont vu leur vie au minimum balayée, au pire broyée quand même. Oui. Pour ma part, voilà, j'étais jeune journaliste, sans doute pas assez aguerri, ou en tout cas j'ai mûri au cours des 4 ou 5 années durant lesquelles j'ai couvert cette histoire, et cela m'a ouvert les yeux, et en ce sens, ça a arrêté, brisé ma carrière, puisque j'ai arrêté le journalisme à 30 ans à cause de ça.
Merci beaucoup Laurence Lacour d'avoir accepté notre invitation dans Le Secret des Sources, merci beaucoup. Merci. Alors on a voulu aussi avoir la version d'une victime, d'une personne impliquée dans ce qui est au départ un fait divers et qui se transforme en erreur judiciaire. Roland Agré est avec nous au téléphone. Bonjour monsieur.
Bonjour à vous.
Alors votre cauchemar débute en 1970. Deux cadavres sont découverts dans le Gard, dont celui de votre patron de l'époque. Vous êtes accusé et condamné à 15 ans de prison pour assassinat, alors que vous êtes innocent, un assassinat que vous n'avez pas commis. Et puis vous vous êtes mutilé pour clamer votre innocence. Vous êtes d'abord gracié, puis acquitté en 1985. Et depuis, vous luttez avec votre association Action Justice contre les erreurs judiciaires. Alors Roland Agré, votre affaire a été médiatisée à l'époque. Est-ce que le fait que la presse parle de vous, est-ce que cela vous a aidé?
Eh bien, écoutez, moi, je porte le grand doute je le soumets aux journalistes et les enfants ce qu'ils veulent. À l'époque, pour mon affaire, un journal local avait titré « Trois hommes risquent leur tête ». Il y avait Ritter, Chantelli et moi-même qui niaient avoir participé au meurtre d'André Borel. Quand on sait que le journal local est lu par les jurés, on peut dire que ça pèse très lourd sur le procès. Ce qui n'a pas empêché ce même Midi Libre, tout de suite après ma condamnation, de faire connaître le combat que je menais pour mon innocence. Il ne faut pas que la source d'information pour les journalistes ne vienne que des enquêteurs. C'est pourquoi je communique tous mes documents et mes mentions venant du terrain. Maintenant, j'ai une grande spécialiste à côté de moi, Marie-Jo Agret. Il faut bien savoir que les journalistes sont toujours à l'écoute et qu'ils participent aux résultats. Mais aujourd'hui, ils sont abreuvés par des affaires judiciaires qu'ils n'ont plus le temps de suivre, d'approfondir. Alors il faut les prévenir, mais qu'immédiatement on interroge la justice sur des faits discordants. Nous sommes désormais dans l'émotionnel sensationnel. Je ne demande jamais à un journaliste de prendre parti, mais je lui fournis mes éléments, et parfois ma conviction, c'est vrai, mais c'est tout.
Mais Roland Agret, est-ce que sans la presse, vous pensez que vous auriez été acquitté ?
Pas du tout. Pas du tout, c'est-à-dire que quand nous avons la presse, c'est très important pour que l'opinion publique soit d'abord informée. Si c'est pas informé, automatiquement, ça ne va pas loin, quoi. Hein, jamais. Vous voyez, pour Le Prince ou d'autres, j'ai eu l'impression de représenter l'individu qui était dedans. Les prisonniers n'ont pas de place dans les médias, il faut bien que quelqu'un les représente.
Lorsque je m'adresse, c'est votre combat aujourd'hui, hein.
Des éléments intervenant d'une contre-enquête. Je donne des arguments et parfois je les retrouve déformés et je n'y peux rien. Ils ont la faculté de dénoncer les dysfonctionnements, c'est leur devoir, pourrait-on dire. Mais lorsqu'on les lit, surpris de s'apercevoir qu'ils n'ont toujours pas compris, alors par rapport à Action Justice et à mon expérience personnelle, je suis convaincu que la presse est indispensable dans les prétoires en alertant l'opinion publique.
Et lorsque vous avez été acquitté donc en 1985, Roland Agret, est-ce que là, la presse en a parlé autant que lorsque vous avez été condamné ?
Elle en a parlé autant, bien sûr, parce que c'était une très grosse affaire. Alors, mon affaire, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé que d'autres, certainement moins. Mais enfin, on en a parlé quand même, oui.
Roland Agret, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en direct au téléphone.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Thibaut Henton est de retour avec nous pour l'image qui a retenu votre attention. Il s'agit de parapluies, les parapluies de Hong Kong, le mouvement pro-démocratie qui dure depuis un mois et les manifestants ont marqué l'événement cette semaine, Thibaut.
Oui, le parapluie qui s'affichait en couverture du Time il y a quelques semaines. Les parapluies, ils ont quelque peu déserté les radars médiatiques ces jours-ci, sont toujours présents dans l'ancienne colonie britannique passée sous tutelle chinoise en 1997. Toujours le théâtre donc, d'un mouvement de désobéissance civile. Occupy Central, reprise de l'occupation entre octobre 2011 et août 2012 du parvis du groupe financier HSBC. La lutte, cette fois-ci, se mène moins directement sur le front des inégalités que sur celui de la représentation politique à Hong Kong. Les manifestants, donc, vous l'avez dit, aspirent à élire leurs représentants au suffrage universel sans la contrainte de Pékin. Occupy Central with Love and Peace est un mouvement non violent, comme son nom l'indique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas affaire à la violence légitime, comme on dit, au gaz au poivre, face auquel le parapluie est utile, au gaz lacrymogène, face auquel il l'est moins. Non violent, ce qui ne veut pas dire que le répertoire d'action n'emprunte pas aux tactiques, aux sensibilités, aux modes d'organisation anarchistes que l'on retrouve là encore à Notre-Dame-des-Landes ou au Testé.
La retenue d'eau de Sivens se situe dans le nord-ouest du Tarn, sur la commune de Lille-sur-Tarn, à environ 10 km de Gaillac, sur la partie sauvage et préservée de la rivière Tescou.
La journée a d'ailleurs commencé par une minute de silence en hommage à Rémi Fraisse, sa mort survenue sur le projet du barrage de Sivens dans le Tarn.
Les touristes qui découvrent cette vallée l'appellent la Petite Suisse.
Les faits en question remontent au 7 octobre dernier. Un groupe de jeunes militants tente de s'opposer à l'enlèvement d'un camping-car sur la parcelle 520.
Et de petites fermes à la production variée se dressent ici et là.
tu es aux premières loges pour voir le nouveau show.
Les faux clowns et leurs chasseurs ont déjà donné lieu à plus d'une soixantaine de signalements. La majorité s'inspire soit de films d'horreur, soit de caméras cachées sur le net.
Est-ce que tu essaies d'être drôle ?
Ce clown n'est plus drôle.
Il faut bien distinguer les blagues d'ados de ce qui relève d'une agression classique sous couvert de masques de clown.
Où est-ce que vous allez comme ça ?
Toutes les fêtes ne se terminent pas par un clown mort.
Le clin d'œil, signé Nathalie Lopez cette semaine. Alors notre rubrique, l'actualité de la semaine à l'étranger avec Quentin Dickinson, directeur des affaires européennes de Radio France et correspondant à Bruxelles. Bonjour Quentin.
Bonjour Frédéric et bonjour à tous.
Alors est-ce que la presse belge s'intéresse aux faits divers, Quentin? Est-ce qu'on a parlé par exemple en Belgique cette semaine des événements de Sivens ou des clowns méchants?
Oui, un peu de tout cela, mais vous savez, en cette fin de semaine, comme chaque semaine pratiquement, l'actualité en Belgique est assez peu fournie. Mais en fait, en mettant bout à bout des éléments qu'on pourrait dire disparates, au fil de la lecture des journaux du Royaume, on découvre des enchaînements parfois imprévus. Alors, la question de l'immigration, par exemple, cela commence par une histoire exemplaire que nous conte l'hebdomadaire Le Vif. Un jeune homme aperçoit un voyageur déséquilibré sans doute par un mouvement de foule sur le quai d'une station du métro bruxellois et cet homme tombe sur les voies. Au mépris de sa propre sécurité, le jeune homme le rejoint et parvient à le mettre en sécurité quelques instants seulement avant l'arrivée d'une rame. Pour ce geste courageux, il est décoré et sa demande de régularisation est acceptée car il était immigré clandestin. Belle histoire, non Frédéric? Eh bien, pas pour tout le monde. Une parlementaire du Parti National Populiste Flamand, la NVA, proteste pour elle, et je la cite, « l'héroïsme ne doit pas engendrer de passe-droit ». L'immigration encore, cette fois-ci chez nos confrères du Newsblad, qui cite le directeur du Centre interfédéral belge pour l'égalité des chances, pour qui les Flamands, et je le cite là aussi, ont davantage de sympathie pour les animaux que pour les immigrés. L'immigration, enfin, avec cette étude britannique citée par plusieurs quotidiens, qui nous apprend que les Belges, dûment sondés, sont persuadés qu'il y a dans leur pays trois fois plus d'immigrés qu'en réalité, 29% contre 10%, cet écart massif de perception est encore plus net quand on leur demande de chiffrer le pourcentage de musulmans, 29%, répète-t-il, alors que la proportion réelle est de moins de 6%.
Parlez-moi des clowns méchants, Quentin Dickinson. Est-ce qu'ils ont franchi la frontière, les clowns agressifs, dans la presse belge? Est-ce que l'on les retrouve?
Oui, eh bien, c'est maintenant officiel. Les clowns sinistres, comme on dit ici, ont franchi
le terrain. Les clowns sinistres?
Les clowns sinistres, oui, bon. Ils ont franchi le Quiévrain, ce ruisseau qui sépare la Belgique de la France, et ont envahi la partie francophone du pays. La Flandre n'est apparemment pas encore touchée. La dernière heure titre « La psychose envahit le pays » et précise que les magasins de farces et attrapes sont en rupture de stock, plus un seul déguisement de clown à trouver nulle part. Mais, sobrement, Het Laatstenus, du côté flamand, se fait l'écho d'un sondage qui se veut formel. 5 Flamands sur 6 disent « détester Halloween ».
Merci beaucoup Quentin Dickinson en direct de Bruxelles. Voilà, merci à tous. Le secret des sources touche à sa fin. Quel traitement, quelle place des faits divers dans la presse? Vous êtes les bienvenus sur notre site franceculture.fr pour réécouter, commenter ou podcaster l'émission. Merci à nos invités, Sarah Lou-Cohen, chef du service police-justice de BFM TV, Nicolas Jacquard du Parisien, Patricia Touranchot de Libération. Merci également à Laurence Lacour, qui était en duplex des studios de France Bleu Orléans, et merci aux équipes de France Bleu Orléans pour leur aide. Corinne Cutillat était avec nous également. Merci à Corinne Cutillat du bureau de Radio France à Toulouse. Nous avons eu le plaisir à recevoir également Roland Agré, président de l'association Action Justice, Thibaut Henton et son ordinateur pour les images et le multimédia, et Mariette Darigrand, notre sémiologue incontournable du secret des sources. Merci à tous les deux. Indispensable dans les coulisses, Vincent Abouchard, Mathias Mégy pour la réalisation et la préparation de l'émission. Avec aux manettes, Élise Le clin d'œil, signé cette semaine, Nathalie Lopez. Et puis, je signale pour ceux qui n'ont pas honte d'aimer les faits divers, comme moi, comme nous, comme le disait Maragouillet en début d'émission, la sortie le 10 novembre prochain du dictionnaire amoureux des faits divers par Didier Decoing de l'Académie Goncourt, publié chez Plon. Dans un instant, le journal de Mathieu Laurent. Pas d'émission en réplique. Aujourd'hui, vous retrouverez Alain Finkielkraut la semaine prochaine. Aujourd'hui, 1er novembre, pour la fête de la Toussaint, France Culture diffuse des émissions religieuses. C'est donc Chrétien d'Orient de Sébastien de Courtois que vous retrouverez après le journal de 9h. C'était Le Secret des Sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. À la semaine prochaine.
C'est assez difficile de donner une définition du fait divers. Moi, j'ai tendance à dire qu'à partir du moment où il y a du judiciaire quelque part, on est dans le fait divers, en tout cas nous un petit peu comme ça qu'on l'intègre aux Parisiens, et puis beaucoup et surtout essentiellement de l'humain.
C'est là où il faut aller vraiment chercher, il faut aller taper aux portes, il faut essayer de convaincre. Voilà, donc c'est une matière qui, une fois qu'on est passé par là, voilà, c'est pas comme le journalisme politique.
Moi je trouve qu'il y a trop de faits divers à la télé. Et je trouve qu'effectivement, dans les JT, il y en a trop. Et un peu par le petit bout de la lorgnette, et ça agite quelque chose, je pense qu'il faudrait un peu plus choisir.